Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais partager avec vous le thème de donner avec joie. Donc, je me réjouis de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Donc, ici, je voudrais vous donner quelques versets pour introduire. Le premier, 2 Corinthiens 9, chapitre 9, verset 7, dans la version Second 21. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est un premier élément. Je voudrais partager cet autre élément aussi dans Actes au chapitre 20 au verset 35. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisque lui-même a dit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En même temps, il faut tester. On peut savoir qu'il n'y a du bonheur à donner que si on donne. Et mais il y a des conséquences. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9 et au verset 6, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc effectivement, il y a un certain nombre de données par rapport au fait de donner, justement, qui sont relatées dans la Bible. Mais je voudrais, finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, donner avec joie, c'est assez vaste. Mais peut-être que je pourrais commencer par donner sans joie. Donner sans joie, vous savez, il peut y avoir plusieurs conditions pour se voir être en train de donner sans joie. Par exemple, quand on paye ses impôts. J'ai pu constater auprès d'un certain nombre de personnes, à travers des réflexions, que ce n'était pas toujours une joie. Et pourtant, quand on va se faire soigner et que c'est pris en charge, ça, c'est une joie. Donc, je crois qu'il y a là aussi peut-être des nuances qu'on devrait développer par rapport à ça. Et que ce qu'on donne d'un côté, bien effectivement, notre pays nous le redonne d'un autre côté. Et il devrait peut-être y avoir une forme de reconnaissance de notre part qui serait bienvenue. Et dans nos divers partages, je crois qu'il faudrait qu'on veille par rapport à ça. Mais c'est un autre sujet, néanmoins lié à celui-ci. Donc, voici diverses situations qui peuvent occasionner le fait de ne pas être dans la joie au moment de donner. C'est quand on est, par exemple, sous l'influence des autres, quand on se sent obligé de faire comme les autres. Vous savez que notre instinct grégaire qui fait qu'on a tendance à se rassembler et vouloir nous imiter les uns les autres, parce qu'on a peur d'être rejeté si on est différent, fait qu'effectivement, on a tendance à imiter tout, sans pour obligatoirement être totalement volontaire dans toute cette imitation. Et malgré tout, je veux dire, le fait d'imiter n'est pas en soi une mauvaise chose. Le problème, c'est que est-ce que cela devient un choix personnel ou bien est-ce que ça reste une simple imitation sans disposition profonde du cœur en faveur de ce que pourrait vouloir Dieu, par exemple, par rapport au fait de donner. Et c'est vrai que on peut imiter, Paul dira lui-même, imitez-moi. Mais ce qui est important, c'est qu'à un certain moment, l'imitation dépasse le fait de faire comme quelqu'un d'autre, mais que ce soit vraiment une action totalement volontaire. Et effectivement, dans certains groupes, eh bien, il y a quelque chose de contraignant, comme quoi il y a une imposition sur le fait de respecter certaines lois. Et si on ne les respecte pas, on ne sera pas béni. Hein? Ça, il y a tout un langage qui est utilisé dans certaines communautés et qui fait qu'effectivement, on doit donner tant et si on ne donne pas tant, ben, on n'est pas un bon disciple. Et si en plus on a des problèmes, c'est parce qu'on n'a pas assez donné. Alors, donner avec joie dans ces conditions, ce n'est pas facile. Et nous obéissons, bien sûr, parce que comme nous sommes dans une communauté, on a envie de faire pareil, on n'a pas envie d'être extrait de la communauté. Même si on n'est pas convaincu. Mais pourtant, Paul rappellera ceci par rapport aux aliments, mais je pense qu'on peut l'extrapoler un peu. Dans Romains, au chapitre 14, au verset 23, dans la parole de vie, il est dit ceci, celui qui mange un aliment en n'étant pas sûr de bien faire, celui-là, Dieu le condamne. En effet, il n'agit pas en accord avec sa foi. Et quand on n'est pas en accord avec sa foi, on commet un péché. Je crois que si on donne et on n'est pas convaincu de donner, et on n'est pas heureux de donner, je crois qu'il y a quelque chose où on n'est pas tout à fait d'accord dans le fait de donner. Et si on n'est pas d'accord, on agit contre soi-même. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas très joyeux. Avoir peur aussi, avoir peur du regard des autres, avoir peur du regard que Dieu pose sur ce qu'on fait. Quelquefois, on se pose des questions. Et si les autres savaient ce que je donne, que penseraient-ils? Et Dieu voit ce que je donne, certainement. Est-ce qu'il va penser que c'est assez? Est-ce qu'il ne va pas penser que je pourrais donner beaucoup plus? Je crois que tout ça nous amène dans une situation qui est plutôt une situation de crainte, une situation d'appréhension. Et ce n'est pas très bon. Dans 1 Jean, au chapitre 4, au verset 18, Jean dit ceci, « Quand on aime, on n'a pas peur. » Parole de vie. « L'amour parfait chasse la peur. » En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est... Ce sont des étapes à travers lesquelles moi-même j'ai passé, où effectivement on a des appréhensions, on a envie de faire bien, mais en même temps on craint. On craint d'être à côté de la plaque et de ne pas faire comme il faut. Il y a aussi le fait d'être encore esclave de ces vieilles habitudes, de ces vieilles pensées. Et quand je ne tiens pas compte de l'amour de Dieu qui m'a racheté, eh bien effectivement, je ne me sens pas libre. Je me sens mal quand, par exemple, je ne me comporte pas tout à fait en accord avec la parole de Dieu, quand ma vie reste encore remplie de péchés non réglés, quand je ne suis pas convaincu de donner selon les règles que la Bible approuve. Mais en réalité, j'oublie qu'il y a une croissance dans l'éducation que le Seigneur me donne. Et qu'en réalité, il y a des choses que j'appréhende petit à petit et qui m'amènent dans une liberté et qui me font changer ma façon de penser. Il y a aussi le fait de ne pas être dans la joie quand on donne, quand on reste sur de penser que ce que je donne, je ne l'ai plus. Et il y a quelque chose de définitif dans ce raisonnement purement humain. Je donne, je n'ai plus. Je n'ai plus, j'ai perdu quelque chose. Je calcule parce que j'ai trop peur de manquer. Ou bien je réfléchis que si je donne trop, je ne pourrais pas réaliser tel ou tel projet. Et ça, effectivement, ce sont des éléments qui ont traversé mon esprit à un moment donné. Je me suis dit, mais où est-ce que je vais ? Bon, j'ai continué quand même parce que c'était la parole de Dieu et qu'on ne discute pas trop la parole de Dieu. Mais je n'étais pas totalement dans la joie. J'étais dans l'obéissance, la soumission, mais la joie, c'était un élément secondaire à ce moment-là. Et effectivement, je ne pense pas, comme la parole de Dieu l'enseigne, que donner conduit à un gain personnel. Ne l'ayant pas vécu auparavant, je n'étais pas convaincu. Et dans mon expérience, ça n'avait pas de sens. Et puis, il y a cette notion aussi de penser qu'on se prive. A priori, pour pouvoir donner, il faut se priver de quelque chose à moins de se contenter de donner simplement le superflu. Mais quelquefois, j'ai traversé des époques où le superflu n'existait pas. Et ce que je donnais était obligatoirement pas du superflu. Et ça, ça a été effectivement des situations un peu délicates. Et la joie encore, surtout de convaincre ceux qui nous entourent que c'est une bonne chose, c'est plutôt sujet de tension qu'autre chose. C'est quand j'oublie que Dieu pourvoit, comme l'a si bien présenté Bakoum dimanche, eh bien effectivement, je n'entre pas dans cette liberté. Ma pensée est que si je veux donner pour respecter cette volonté de Dieu de donner, il va falloir que je me prive, sinon je ne pourrai pas remplir la condition de donner ce qu'il faut. Mais si je me prive maintenant, est-ce qu'un jour je serai vraiment prospère? Vais-je devoir me priver toute ma vie? Et il y a effectivement cet autre aspect, c'est qu'on est dans une société où, normalement, on ne compte que sur soi seul pour assurer son avenir, pour assurer sa protection. Et tous ces raisonnements humains nous disent qu'il faut s'assurer soi-même son avenir, qu'il faut garder au maximum ce qu'on a pour pouvoir l'investir, pour pouvoir assurer son futur, pour assurer ses projets. Alors, comment combler tous ces besoins si on donne trop? C'est purement humain hein, comme réflexion. Et pourtant, on est un peu tous d'accord là-dessus, malgré tout. Parce qu'effectivement, on côtoie des tas de gens qui pensent comme ça. Centrer sa vie sur soi et ses projets sans tenir compte de la répercussion de l'action de Dieu dans notre vie, c'est un mauvais calcul. Il est impossible d'être dans la joie avec ce genre de raisonnement, ce genre de pensée, ce genre d'attitude. Il y a quelqu'un, j'ai lu ça, qui avait écrit « Ils étaient sortis de l'esclavage, mais leur façon de penser était restée celle d'esclaves. Sauvés, mais misérables. » Et nous devons veiller à ça, ne pas rentrer dans, sortir de cette réalité-là. Nous devons changer notre système de pensée. C'est ce que Paul et la Bible nous enseignent dans Romains, au chapitre 12 et au verset 2, il est dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est ce que j'ai partagé jeudi dernier, pendant le temps de prière aussi, dans Proverbes au chapitre 11, au verset 24 et 25, il y a ce paradoxe. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Il y a effectivement cette réalité avec Dieu qui est totalement différente. Et là, j'aborde ce sujet, effectivement, cette fois-ci, de donner avec joie. Parce qu'avec Dieu, la vraie vie, c'est de donner. Et avec joie. Pourquoi ? Parce que Dieu veut notre joie dans notre vie. Cela va avec sa propre joie qu'il partage avec nous. Il se réjouit de nous avoir sauvés. Ce n'est pas pour nous voir abattus et désespérés. Je pense que ça n'aurait pas d'intérêt majeur de faire de cette façon-là. Et le principe de donner est lié à Dieu dès le départ de la création. Toute la création nous donne tout ce qu'il faut pour vivre. Dans Genèse, au chapitre 1, au verset 26 à 31, il est écrit ceci. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit, des fruits avec pépins et noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Dieu avait prévu que nous ayons tout ce qu'il faut pour vivre. Sans s'inquiéter du lendemain, chaque jour, il y avait tout ce qu'il fallait. Et Jésus nous rappelle ceci, nous dit même de prier Dieu le Père en lui demandant de nous donner notre pain quotidien. Alors au départ, effectivement, c'était gratuit, mais le péché a rendu pénible le fait d'avoir ce qu'il faut pour vivre. Dans Genèse au chapitre 3, versets 16 à 19, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces, des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Dommage. Et de là, de cette nouvelle situation, nous avons construit un système de pensée où nous avons peu à peu occulté le vrai et seul Dieu, où nous en créer de nombreux à notre convenance. Mais Dieu a conduit toutes choses pour que nous puissions retrouver le bon chemin de la vérité et de la vie. Dieu a donné son Fils pour nous délivrer et nous racheter. Ainsi, maintenant, nous lui appartenons. Et Christ a donné sa vie pour nous, c'est pour ça qu'il est écrit dans Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et dans le fait de donner, il y a la vie. C'est ce que Jésus donne. Il donne la vie. Il donne la vie abondante. Dans Jean, au chapitre 10 et au verset 10, il est dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » C'est intéressant, il ne dit pas pour que ces brebis aient ce qu'il faut, mais qu'elles soient dans l'abondance. Et le Seigneur l'a montré aussi en parlant de la graine qui doit mourir pour donner naissance à une multitude, qui reflète un peu le fait de donner aussi. Dans Jean chapitre 12 au verset 24, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé à terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors pour donner avec joie, il faut être libéré de la convoitise. La convoitise humaine n'est jamais satisfaite, comme Pacôme me l'a présenté il y a quelque temps. Dans Ecclésiaste, Salomon rappellera ceci, « Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et pourtant ses désirs ne sont jamais satisfaits. » Dans 1 Timothée, au chapitre 6, au verset 7 à 8, Paul rappellera ceci, « En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pourrons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. » Paul, qui a appris à se contenter de la situation dans laquelle il était, qu'il soit dans l'abondance ou dans la disette. Dans la convoitise, c'est un mensonge qui nous affirme que si nous arrivons à obtenir ce que nous voulons, alors nous serons heureux et joyeux. Or, ce n'est pas vrai. Après avoir obtenu ce que nous voulions et joui ce que nous avions désiré, nous nous enlaçons et désirons autre chose. Et cela ne se termine jamais. On oublie que Dieu veille sur nos besoins. Ainsi, il nous libère du fait de nous en préoccuper de nos besoins. Il nous dit, Dieu, que la vraie joie et le vrai bonheur se trouvent dans le fait de donner généreusement. Si nous savons nous contenter de ce que nous avons, il n'y aura aucun remords à donner généreusement. Mais au contraire, un grand plaisir en sachant que Dieu utilisera tout cela à bon escient et certainement mieux que ce que nous aurions fait. Libérons-nous aussi des calculs. C'est Christophe qui en avait abordé cet aspect-là, le marchandage avec Dieu. Quelquefois, on donne dans le but de s'enrichir en s'appuyant sur les promesses de Dieu qui, lui, est fidèle. On se pose ce genre de questions. Est-ce que je pourrais mieux réaliser mes projets si je donne tant à Dieu? Et si peut-être je devrais donner plus pour mettre toutes les chances de mon côté? On calcule avec Dieu. Alors, c'est une réalité, la bénédiction de Dieu. Mais ce qui importe plus que tout, c'est notre état de cœur, ce que Dieu, lui, connaît parfaitement. Et c'est ça qui va déterminer la suite. Apprenons à gérer convenablement nos motivations. Veillons à ne pas passer à côté du but, du don, qui est de faire du bien autour de nous et de simplement rentrer dans la volonté de Dieu, faire ce qui plaît à Dieu. Autrement, ce serait une attitude qui montre que nos désirs prennent le pas sur notre service à Dieu. On veut plus pour soi que ce qu'on veut pour Dieu. Apprenons à laisser Dieu gérer notre vie, à lui faire confiance. Et pour cela aussi, considérons qui est notre Père. Il est riche et généreux. De plus, nous avons quand même un Père dont la création est la propriété. Il possède la création puisqu'il l'a créée lui-même. Tout est à lui. Ce que nous possédons, c'est ce qu'il nous a donné. S'il nous a donné un peu et qu'il nous voit en train de l'utiliser à bon escient, selon sa volonté, il va nous confier plus, sachant que nous en ferons un bon usage pour sa gloire. Mais si on n'agit pas ainsi, c'est qu'on ne lui fait pas confiance pour notre vie entre ses mains. Dieu veut que nous soyons convaincus que sa bonté sera manifestée dans notre vie. Alors, manifestons-nous notre confiance en Dieu en étant bon et généreux comme lui l'est. Voilà ce qui attend quand même celui qui ne lui fait pas confiance. Dans Matthieu, chapitre 25, au verset 24 à 30, il est parlé de la fin de la parabole des talents. Je vous passe les deux qui ont fait fructifier ce qu'ils avaient reçu de leur maître. Et j'arrive sur le dernier. Celui qui n'avait reçu qu'un talent, peu de choses, il n'a pas voulu le gaspiller, s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Bon, je sais que ça tue un peu l'ambiance, mais c'est quand même des réalités auxquelles on pourrait être confronté si on ne prend pas en compte tous les éléments que Dieu nous donne dans sa parole afin de pouvoir marcher dans ses voies correctement. Nos peurs nous mènent à faire des mauvais choix. C'est ce qui s'est passé. Il a eu peur, et parce qu'il a eu peur, il a fait un mauvais choix. Quand Dieu examinera nos vies, nous n'aurons aucune excuse valable. Soyons conscients du fait que Dieu nous accompagne toute notre vie. À chaque instant, Dieu veut nous rapprocher de lui par le fait qu'on apprend à le connaître et aussi parce qu'il nous aime. Et il nous veut du bien, donc. Et s'il nous veut du bien, de quoi aurions-nous peur ? De rien. Cet environnement protecteur de Dieu doit nous libérer de nos angoisses du lendemain. Dieu pourvoira. C'est pour cela que Jésus dit de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons ou de quoi nous serons vêtus. Mais il est dit aussi dans le psaume au chapitre 37 et au verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli. » Bon, il ne s'agit pas de moi, hein, mais... Gérald. « J'ai été jeune, j'ai vieilli. » Et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. C'est vrai que quelquefois, c'est important d'avoir cette vision-là, parce que quelquefois, on a aussi un souci pour ses enfants. Est-ce que j'aurai tout ce qu'il faut pour mes enfants ? Nous avons la réponse ici. Dieu pourvoit. Nous sommes dans un monde où il est devenu important de vivre sa vie pleinement, de tout faire pour réaliser ses rêves, avoir une bonne carrière, réussir dans la vie. Est-ce vraiment le type de vie que le Seigneur veut nous voir nous engager ? Je crois que Dieu veut vraiment s'occuper de nous, nous éduquer, nous apprendre à compter sur lui, car ses projets, au final, sont bien meilleurs que les nôtres. Pourquoi se prendre la tête dans des plans qui vont prendre toute notre énergie et qui vont nous éloigner de Dieu ? Cependant, nous avons des rêves, et il est important d'avoir des rêves. Mais qui sait ce que Dieu fera plus tard ? tout lui est possible. C'est juste une question de ce qui prend la première place dans notre vie, nos rêves ou Dieu. Quand je dis la première place, c'est-à-dire où est-ce qu'on met notre énergie, à réaliser nos rêves ou à servir Dieu. Remettons les choses dans le bon sens. Notre énergie principale doit aller vers Dieu, car à partir de là, il y aura un retour bénéfique et bienfaisant. Je crois qu'il est important aussi de considérer qu'un don deviendra un gain avec Dieu. Dans Proverbes au chapitre 3, verset 9, il est dit ceci: « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Bon, j'ai eu une petite pensée en lisant cela, surtout la fin. J'imagine ici que le vin nouveau pourrait être associé à la joie. Et il aurait pu dire que tu aurais plein de grains, plein. Mais il a parlé du vin. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. Je crois qu'il est important aussi de ne pas se sentir obligé de donner, mais d'avoir envie de donner. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Le don doit venir de notre propre cœur et être associé avec la certitude de plaire à Dieu. Ne pas avoir de doute à ce sujet. Et si on prend ça dans ce sens-là, donner devient un cercle vertueux. Donner selon son cœur, librement et joyeusement. Ce ne sont pas les autres qui doivent décider de ce que je dois donner, mais moi uniquement. Il y a un grand nombre de références bibliques qui nous aident dans cette voie afin de comprendre ce qui est bon. Mais toujours, soyons les seuls à décider au final. Il n'y aura pas de temps où on pourra reprocher aux autres de nous avoir mal conseillés. Notre décision est la nôtre uniquement et il faut en assumer les conséquences, qui sont bien souvent très bonnes. Cela implique de ne pas suivre comme des moutons, mais de prendre le temps d'étudier et de comprendre ce que la volonté de Dieu à ce sujet, au sujet de donner, et de s'y conformer paisiblement et en confiance. Nos raisonnements humains sont difficiles à détrôner, je vous assure. Il est important de commencer ce processus de donner avec joie. Gardez en tête que c'est important de donner et que ce n'est pas se priver. Il est évident que certains projets seront repoussés, voire momentanément annulés. Mais de quoi sera fait notre avenir? Personne ne le sait exactement, sauf Dieu. Alors gardons toujours espoir dans le cas où Dieu pourrait approuver certains de nos rêves. Pourquoi pas? Et commençons à donner librement et joyeusement. Au début peut-être, et je peux vous dire que c'est vrai, on donne un peu, mais avec joie, parce que c'est sa décision personnelle. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que notre prospérité ne baisse pas, mais au contraire, elle progresse. Alors on donne un peu plus. On se dit, je peux donner un peu plus. Et cela évolue toujours dans le même sens. Notre prospérité progresse. Ça ne se dégrade pas, bien au contraire. Alors on donne encore un peu plus. Et on s'aperçoit que c'est toujours la même chose. Vous savez, c'est comme si Dieu nous donnait quelque chose. On avait un tout petit entonnoir, on donne un peu. Puis tout d'un coup, notre entonnoir grossit. Donc, on reçoit plus, on peut donner plus. Hein, parce que la bouche de l'entonnoir, elle aussi grossit. Hein, et on peut donner plus, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que, en réalité, le fait de donner fait partie du fonctionnement du royaume de Dieu. Donner, c'est la réalité du royaume de Dieu. On donne. Toute notre vie, on donne. La générosité en est la base. Je parle d'argent, mais je parle de tout, de temps, d'énergie, d'encouragement et de plein de choses, tout ce qu'on peut donner. Et dans cette générosité, il n'y a jamais de perte, que du gain. Pas obligatoirement d'argent, mais de vie dans sa globalité. Une vie abondante. 2 Corinthiens 9, 7, 8, je rappelle la fin du verset, « Car Dieu aime celui qui donne avec joie » et le suivant: « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. En conséquence de cette attitude, quelle joie de voir son Église prospérer, de voir des personnes surmonter leur situation, de pouvoir participer au bien de son environnement, Église, famille, voisins, collègues, etc. Mission, et de voir tout cela évoluer sans jamais être dans la misère. Alors, je voudrais terminer simplement. Donner généreusement, avec joie, c'est la démonstration d'une relation pleine, sincère et entière avec Dieu. C'est aussi le résultat d'une connaissance de Dieu qui grandit jour après jour, mois après mois, année après année, de la prise de conscience de l'amour de Dieu qui se manifeste concrètement dans notre vie, de façon palpable. C'est l'expérience en retour de la bénédiction de Dieu dans notre propre vie et dans celle de nos proches, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Mais gardons à l'esprit que c'est notre attitude de cœur qui importe dans cette œuvre. Veillons à être remplis de joie à chaque fois que nous donnons, en sachant que c'est ce qui plaît à Dieu. Et souvenons-nous que nous serons toujours gagnants en respectant ces comportements. Donner avec joie fait partie du bien-être. Il n'y a pas de ressenti de privation quand on donne avec joie. Ce qui reste est pleinement suffisant, car la paix de Dieu est là et on sait qu'il pourvoit selon nos réels besoins. Alors, profitons de cette harmonie que Dieu nous donne de vivre sans souci, juste dans la paix et dans la joie. Amen.